Un grand merci à Richard pour ce temps qui nous ouvre les yeux sur ce qui se passe au-delà de nos frontières. Je suis particulièrement reconnaissant aussi parce que tu ne pouvais pas mieux tomber avec le thème que nous allons démarrer maintenant. Tu as parlé de la mission avec cette idée que les Congolais se demandaient si eux aussi faisaient partie de cette mission à apporter à d'autres, et on est en train de réfléchir actuellement aussi, nous, occidentaux, quelle est notre mission et quelle est notre mission ici en tant qu'église de Pharmoutier. Le contexte est différent, les difficultés à résoudre sont différentes, pourtant le défi reste le même. Comment répondre à cette mission que Dieu nous confie? Comment savoir exactement ce qu'elle est? Comment, en tant qu'Église, y répondre? Parce que quand on parle de mission, il me semble qu'il y a toujours un risque. Celui de séparer la mission de l'Église. On est toujours dans ce risque de se dire, ben en fait, les missionnaires, c'est Richard, c'est les autres, des spécialistes qui dédient leur vie, qui vont partir et qui vont accomplir la mission que Dieu leur confie. Et c'est quelque part, sans doute, l'image qu'avaient ces églises congolaises en voyant des missionnaires venir. C'est parfois l'image qu'on a aussi en France, dans des églises où on reçoit des missionnaires et où on a du mal à se dire, mais en fait, béni pour bénir, c'est à nous aussi de prendre place là-dedans. Et le risque est aussi du côté de l'église. Parce qu'une église qui perd de vue qu'elle doit participer à ce champ missionnaire n'est pas l'église telle que Dieu l'a voulu. Elle ressemble à un voilier sur une plage. Je ne sais pas si on a l'image. Je ne savais pas qu'il serait déjà question de voilier ce matin. Mais voilà ce que Einstein a dit. Un voilier est toujours en sécurité sur une plage. Mais il n'a pas été conçu pour cela. Et je crois qu'en tant qu'Église, justement, on prend le risque en étant trop focalisé sur notre vie interne, nos cultes, nos programmes, la manière dont nous voulons vivre, de perdre de vue ce à quoi nous sommes appelés par Dieu lui-même. Et ce matin, nous voulons justement entrer dans une nouvelle série pour réfléchir à notre mission en tant qu'Église. Comment la discerner? Comment la nourrir? Comment être ce voilier en mer et non en sécurité sur la plage? Bien sûr, c'est une réflexion en tant qu'Église, mais vous allez voir que ces réflexions en tant qu'Église ont un impact dans notre manière de vivre notre vie avec Dieu, chacun face à nos défis personnels. Il y a là des liens qui nous aident dans nos propres parcours. Alors ce matin, nous démarrons donc une nouvelle série dans le livre des Actes, et quelques petites précautions ou remarques préalables. On va démarrer cette série en acte 13. On dirait on démarre une série, on devrait commencer en acte 1. On va commencer en acte 13, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, les plus anciens, alors pas à l'époque de Richard, doivent se rappeler qu'ils ont déjà eu une série de acte 1 à 12. Bon, c'était il y a 10 ans, je comprends que vous en rappeliez peut-être pas. Moi, je me rappelle parce que c'est le moment où je suis arrivé dans l'église et j'avais bien en tête que Gordon avait abordé cette série. Mais la vraie raison, c'est parce qu'en fait, c'est à partir d'acte 13 que l'Église se saisit consciemment de sa mission. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à travers le petit parcours que je vous propose, qui va nous aider à juste regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Le livre des Actes nous explique en fait de quelle manière l'Évangile s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. En ce sens, c'est un récit, et comme tout récit, il est difficile à totalement prendre les éléments du livre des Actes et de dire « voilà ce que nous devons faire ». Pourtant, le livre des Actes reste la parole de Dieu, comme toute la Bible. Il nous fait réfléchir sur des principes qu'il est urgent de s'approprier à nouveau. Et un des grands principes, c'est bien sûr la place de la mission dans l'Église. Et c'est le titre que je veux donner à ce message ce matin, une église en mission. Et je vous propose de prendre vos Bibles, Au chapitre 13, nous allons lire les versets 1 à 12, et le texte sera projeté. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de l'entourage du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima son désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ainsi que l'on traduit son nom, s'opposait à eux. Il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, qui s'appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressa à lui en le regardant droit dans les yeux. « Charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien !» Quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits ? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper. Tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Au même instant, les yeux d'Élymas s'obscurcirent. Il se trouva plongé dans une nuit noire et se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider par la main. Quand le proconsul vit ce qui venait de se passer, il crut. Car il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné au sujet du Seigneur. Jusque-là, la lecture de la parole ce matin. Le premier point que je veux souligner, on n'en doute pas, mais on va approfondir ce que cela veut dire. La mission est une initiative de Dieu. Parce que la première chose qui attire notre attention quand on lit ce texte, en tout cas qui attire mon attention, c'est cette expression. Le Saint-Esprit leur dit « mettez à part ». Et quand on lit ça, on se dit « on aimerait bien savoir comment ça s'est passé ». Comment le Saint-Esprit a-t-il dit de mettre à part Saul et Barnabas ? Force est de constater que cela ne nous est pas précisé. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est sans doute la personne divine dont on remarque le plus l'œuvre dans tout le livre des Actes. C'est assez logique, c'est la nouveauté même de l'Église. Selon la prophétie de Joël, l'Esprit de Dieu est désormais répandu sur tous les membres du peuple de Dieu, et chaque membre est appelé à prophétiser dans le sens qu'il a l'Esprit de Dieu en lui pour parler de la part de Dieu. Cela signifie que Dieu peut utiliser nos réflexions à chacun, nos décisions, nos délibérations pour accomplir sa volonté. On a du mal à s'en rendre compte, je crois. Dans nos cultures occidentales, nos églises sont organisées de manière démocratique. On aime ça, la démocratie, pouvoir donner son avis. On a des assemblées pour délibérer et pour pouvoir nous exprimer sur la vie de l'église. C'est une très bonne chose. Est-ce que c'est une condition pour fonctionner, ou plutôt est-ce que c'est une garantie de fonctionner sainement, uniquement si chacun d'entre nous, nous prenons conscience que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu et que dans nos délibérations, dans nos participations, nous sommes appelés à faire passer l'intérêt des autres, de l'Église, avant nos propres frustrations, nos propres déceptions, nos propres préférences. Nous sommes un peuple par lequel Dieu parle. Et ça, c'est merveilleux. C'est solennel. L'église d'Antioche avait cette conviction forte que Dieu parlait à travers elle. Et elle avait cette conviction que Saul et Barnabas avaient été appelés à une mission particulière. Le texte ne le précise pas, mais en fait tout le livre des Actes jusque-là nous aide à comprendre c'est quoi cette mission. Annoncer l'évangile en terre païenne. Et pour Luc, en fait, il est évident que cette mission, cette initiative, ne pouvait venir que du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, auparavant, il ne serait jamais venu à l'idée, à ces chrétiens, d'envoyer une équipe en terre païenne. On en a déjà parlé brièvement il y a quelques semaines, mais rappelez-vous comment tout cela a commencé. En Actes 1:8, la mission est plutôt claire. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Mais pendant toute une période, l'Église est focalisée sur ce qu'elle est appelée à vivre à Jérusalem. On avait souligné un certain nombre de défis. Elle témoigne, oui, mais là où elle est. Il a fallu que la persécution survienne pour que les chrétiens qui ont cherché à sauver leur peau, en quelque sorte, soient amenés à aller au-delà, en Judée, et même jusqu'en Samarie, et même un peu plus loin. C'est le début de la mission centrifuge qui s'éloigne du centre de Jérusalem. Et un des fruits, c'est justement la naissance de cette église à Antioche, qui est, elle, de l'autre côté de la frontière, si je puis m'exprimer ainsi. Mais jusque-là, il y a encore trop de barrières culturelles pour envisager d'annoncer intentionnellement l'évangile aux païens. Et Luc nous en a mis des bouts dans son livre des Actes. Hein. Pensez à l'épisode de Corneille, où il a fallu que Dieu insiste de manière forte pour que Pierre aille chez Corneille, ne serait-ce que pour rentrer chez lui. Pensez à l'épisode de l'eunuque éthiopien et tout ce que Dieu a mis en œuvre pour que Philippe se retrouve sur la route de cet eunuque qui revenait de Jérusalem et qui lui annonce la parole de l'Évangile. Jusque-là, les conditions n'étaient pas encore pleinement réunies pour que les chrétiens se saisissent pleinement de cette mission que Dieu leur confiait. Et Luc, en présentant son ouvrage, veut qu'on passe pas à côté de cela. Hein. C'est comme s'il voulait nous dire, en fait, annoncer l'évangile aux païens, c'est pas nous. C'est pas notre idée. En fait, ça nous serait jamais venu à l'idée de faire ça. Donc, si on s'est mis à faire ça, c'est parce que le Saint-Esprit nous y a poussé. C'est comme si... Dieu poussait son Église là où elle ne serait jamais allée. Et c'est une première piste pour nous ce matin, alors que nous voulons approfondir notre mission en tant qu'Église à Farmoutier. Cette mission ne peut pas être l'objet d'un comité, le fruit d'une initiative isolée. Car nous le voyons, c'est Dieu qui est à l'initiative de la mission. Il veut nous conduire, il veut nous guider. Notre rôle à nous, c'est de nous laisser conduire par lui. C'est de le rejoindre dans ce qu'il est en train de faire. Notre rôle, c'est d'entrer dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, même si elles ne ressemblent pas exactement à ce qu'on avait imaginé au départ. Dieu est aux commandes, et ça, c'est plutôt rassurant. Et acte 13, c'est le moment où le Saint-Esprit dit et l'homme suit, en quelque sorte. Il y a un tournant indéniable, un alignement remarquable entre la volonté divine d'annoncer l'évangile en terre païenne et la décision humaine de s'y conformer. Cependant, ce qui se passe dans ce chapitre ne doit pas être vu comme une illumination soudaine, comme si là, tout d'un coup, une parole tombée du ciel surprenait tout le monde, mais bon, ok, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a dit, on va le faire. En fait, il y a un ensemble de mini-décisions, d'initiatives préalables qui ont préparé l'église d'Antioche à discerner a trouvé que c'était limpide que le Saint-Esprit était en train de dire « Envoyez Saul et Barnabas ». Parce que si le fait d'annoncer l'évangile aux païens n'était pas naturel jusque-là, on peut dire qu'en acte 13, c'est devenu évident que Dieu soufflait sur son Église pour qu'elle mette le cap sur cette destination. Et je vous propose d'identifier juste quelques mini-décisions préalables, quelques initiatives qu'on rencontre dans l'Église d'Antioche qui lui a permis de discerner cela. La première, c'est que l'Église d'Antioche est un modèle de rayonnement de l'Évangile. Antioche de Syrie, c'est en fait la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. C'est une capitale régionale, forcément, c'est un lieu où se mélangent les populations de manière diverse et variée. Et c'est là, c'est pas un hasard, que l'Évangile a été annoncé pour la première fois intentionnellement à des païens. Luc le souligne, certains parmi les chrétiens arrivés là ont parlé aux païens. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater le résultat. Du côté des observateurs, les Romains. Les Romains ne comprenaient pas trop la subtilité entre le judaïsme et cette nouvelle secte naissante avec un prophète, Jésus-Christ. Pour ça, pour eux, tout cela était du pareil au même. Mais là, il y a un truc qui se passe à Antioche, à cause justement de ce mouvement nouveau, de l'aveu même des observateurs. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Et cette appellation a probablement été donnée par ceux qui regardaient ce qui se passait. C'était même probablement une moquerie, quelque chose du style « espèce de petit Christ, tu ressembles bien à ton maître ». Toujours est-il que les habitants d'Antioche remarquent, repèrent qu'il est en train de se passer quelque chose de différent. Première caractéristique donc de cette église, première caractéristique j'ai envie de dire intentionnelle, l'église d'Antioche est une église qui a à cœur de rayonner dans son environnement proche. Dès sa genèse, elle a appris à le faire. Alors pas tellement étonnant que ce soit elle qui ait discerné l'appel à élargir encore le cercle. Deuxième caractéristique, un désir de se former. On a entendu dans la bouche de Richard tout à l'heure l'idée centrale forte de la formation de disciples quand on pense à la mission. Si l'église d'Antioche rayonnait sur son environnement, cela n'a sans doute pas été sans provoquer un joyeux bazar en interne. Pourquoi je dis ça ? Parce que dès qu'il y a la vie, il y a forcément des choses qui bougent, des choses qui nous insécurisent, des choses qui ne se passent pas comme d'habitude. Et cela s'accompagne d'une certaine instabilité. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a la présence là de deux personnes particulières, Saul et Barnabas. Deux personnes particulièrement attirées par ce genre d'environnement où ce n'est pas le statu quo qui règne. Saul, le persécuteur repenti, le visionnaire qui avait compris avant les autres quelle allait être la mission désormais pour l'Église. Mais vous savez que c'est difficile d'être visionnaire avant les autres, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il semble qu'il a disparu de la circulation pendant une dizaine d'années avant d'être rappelé pour venir ici à Antioche parce qu'il se passait quelque chose. Et puis Barnabas, lui, c'est plutôt l'âme du berger. C'est ce que veut dire son nom, fils d'encouragement, d'exhortation. Un homme doux et bienveillant. Parfait aussi pour ce genre de situation où il y a besoin, parfois, d'arrondir les angles, de pouvoir être cette personne douce et bienveillante qui accompagne. Et face aux défis que rencontre cette église, Barnabas et Saul, que font-ils ? Ils passent tout un temps à enseigner les disciples, à les former. Et là, on a le début d'un engrenage. Le joyeux bazar d'Antioche amène les disciples à approfondir leur foi, à se poser des questions qu'on ne se pose sans doute pas de la même manière ailleurs, à chercher la direction de Dieu plutôt que de se contenter des réponses toutes faites. Nul doute que cela a aussi joué un rôle au moment de discerner que le Saint-Esprit appelait ces deux personnes qu'ils devraient perdre pour aller plus loin et pour continuer ce dont ils avaient été les premiers témoins. On retrouve un peu le slogan de tout à l'heure, hein. Béni pour bénir à notre tour. Enfin, dernière caractéristique de cette Église, on la remarque en regardant ses leaders. Qui compose le collège d'anciens d'Antioche ? Barnabas, juif, mais originaire de Chypre. Siméon, dont il nous est dit qu'il était noir. Lucius, de Cyrène, une île de Méditerranée à la culture grecque, plutôt, a priori. Manaen, lui probablement issu de la noblesse, puisqu'il nous est précisé qu'il avait été élevé avec Hérode le Tétrarque. Et puis Saul, citoyen romain, mais pur produit du judaïsme. Vous voyez le truc ? La diversité de l'Église se reflète dans les responsables. Ça vaut le coup de le souligner, hein, c'est pas toujours le cas. Mais il n'y a pas une emprise ou une mainmise de l'Église de Jérusalem, telle qu'on pourrait peut-être le supposer, qui imposerait une préférence culturelle à cette Église à Antioche. L'Église a eu la possibilité, la sagesse, de confier les responsabilités à des hommes capables, mais aussi sensibles à la situation particulière de l'Église d'Antioche, à sa diversité. Alors avec un tel pédigré, pas étonnant qu'elle ait été particulièrement prompte à entendre le Saint-Esprit lui dire « Va annoncer l'Évangile aux païens ». Alors comme vous le voyez, acte 13 fait partie de ces passages où la responsabilité humaine, l'initiative humaine, là qu'on voit dans tous ces exemples, et la souveraineté de Dieu se rejoignent d'une manière incroyable. C'est bien l'homme qui agit, qui prend des décisions, qui a des initiatives, mais en fait, il ne fait que rejoindre Dieu là où il l'envoie. C'est fantastique, hein ? Ça semble un peu étrange à notre intelligence humaine. Pourtant, j'aimerais souligner que c'est un phénomène qui ne nous est pas si étranger que ça. Par exemple, Dieu a décrété que les oiseaux voleraient. Mais est-ce qu'on voit la main de Dieu maintenir les oiseaux de sorte qu'on se rend compte que c'est Dieu qui a décrété ça? Comment Dieu fait ça? Il a donné aux oiseaux des ailes, qui s'ils battent physiquement les ailes, comme Dieu l'a prévu, vont pouvoir voler. Mais en cela, ils ne font que ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu décrète, nous sommes responsables, et nous retrouvons quelque part notre responsabilité harmonisée avec le décret de Dieu quand nous nous soumettons à sa volonté. En philosophie, je crois qu'on appelle ça le compatibilisme, l'idée que la souveraineté de Dieu, alors c'est parce qu'on l'applique à la théologie, hein, sinon c'est plutôt le déterminisme, mais nous, on va dire la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine, au lieu d'être irréconciliables, sont en fait compatibles. Le compatibilisme, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine sont compatibles. Et en fait, même plus que d'être compatibles, je dirais que cette apparente contradiction est une clé importante pour notre rencontre avec Dieu. Prendre des initiatives humaines, entreprendre des projets est sans doute le meilleur moyen pour rencontrer le Dieu souverain qui tient tout dans sa main. Et c'est toute la leçon que l'on peut tirer dans la suite du récit, dans cette première étape du voyage missionnaire sur l'île de Chypre qui nous est raconté dans les versets 5 à 12. Je ne vais pas le relire, mais très peu nous est dit sur le début, l'arrivée à Salamine, si ce n'est que Saul et Barnabas s'adressent en premier lieu aux Juifs dans les synagogues, une habitude qu'ils auront tout au long de leur épopée. Et donc l'équipe missionnaire traverse l'île et arrive à Paphos. Comme ils ont l'habitude de s'adresser en premier aux Juifs, c'est tout naturellement qu'ils font la rencontre de Bar-Jésus, issu de la communauté juive et qui se fait passer pour prophète. Et cette rencontre, en provoque une autre avec un homme important de l'île, le proconsul Sergio Paulus. Barnabas sont alors amenés à expliciter la parole de Dieu devant le proconsul. Et le texte prend à partir de là une tournure ironique, voire dramatique. Un juif dénommé Bar Jésus, ce qui signifie fils de Jésus, devient l'obstacle à ce qu'un païen accepte le salut en Jésus-Christ. Un païen, Sergius Paulus, c'est quelqu'un qui est né dans une religion polythéiste, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne comprend pas bien cette différence entre le judaïsme qu'il connaît à travers Bar Jésus et puis ce que Saul et Barnabas sont venus annoncer. Il se passe là quand même quelque chose d'assez étonnant. Parce que quand Bar Jésus, Saul et Barnabas commencent un peu à se chipoter, on pourrait se dire bon, là, c'est vraiment du débat de spécialistes. On le verra à d'autres endroits dans le livre des Actes. Et puis, s'ils devraient prendre parti, on s'attendrait à ce qu'ils prennent parti pour celui qui connaît le mieux, Bar Jésus. Et pourtant, celui qui n'avait aucune raison de croire, ce proconsul romain, donne sa vie au Seigneur parce qu'il avait été vivement impressionné par l'enseignement qui lui avait été donné. Alors bien sûr, entre-temps, il y a eu le fameux épisode où les paroles de Saul sont assez fortes, où il prononce des paroles à l'encontre du faux prophète qui vont le plonger dans l'obscurité. Et bien sûr, ça joue un rôle comme un signe pour indiquer qu'il se passe là quelque chose justement qui n'est pas juste de l'ordre du débat de spécialistes, mais c'est bien la parole qui a vivement impressionné le proconsul, qui a fini par donner sa vie à Jésus. Un récit qui défie nos conceptions humaines. Une étape qui sera quelque part un symbole symptomatique de tout ce qui va se passer par la suite. Celui qui aurait dû refuser la parole la reçoit avec joie. Celui qui aurait dû accepter la parole fait obstacle à cette parole. Celui qui aurait dû montrer de l'indifférence fait preuve d'un tel intérêt qu'il finit par croire. Celui qui avait la mission pour être lumière des nations est plongé dans l'obscurité. C'est vraiment l'âme du livre des Actes que l'on a là sous les yeux. Voir à quel point les initiatives humaines et la souveraineté de Dieu sont compatibles. Les premiers chrétiens, que ce soit ceux de l'église d'Antioche, que ce soit Saul et son équipe, ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été envoyés par lui. Ils ont discerné sa voix. Mais cela n'a pas été comme s'ils avaient reçu un plan détaillé de tout ce qui les attendait à l'avance. Ils ont expérimenté cette idée avec Dieu, c'est un pas après l'autre. Avance et je te ferai voir qui je suis. Avance et je te ferai voir que je t'accompagne. Avance et je te ferai voir que je te précède, que j'agis déjà là où je t'envoie. Avance et tu apprendras à me reconnaître dans ta vie. Avance et tu apprendras à me connaître tel que je suis. Alors, que garder de ce fantastique passage d'Acte 13 ? D'abord, et alors qu'on réfléchit à un certain nombre de choses actuellement dans l'église de Farmoutier, se rappelle, la mission n'est pas une option. Ce n'est pas la ligne du budget d'église qu'on contemple une fois dans l'année en se disant « Ah, ouf, il y a des missionnaires. Heureusement qu'ils sont partis à l'autre bout du monde. » et qu'ils ont consacré leur vie. Oui, on a des appels différents, des rôles différents. Mais cette mission nous concerne tous au premier plan. Elle n'est pas non plus une liste d'activités dans notre périmètre proche de rayonnement, parce que ça aussi, c'est la mission, que l'on fait de temps en temps pour se dire « il faut bien qu'on fasse quelque chose ». Elle est constitutive de l'Église. Tout comme un voilier a été conçu pour affronter les vagues et l'océan, l'Église n'est vraiment l'Église que quand elle répond à sa mission. Ensuite, deuxième point que je vous propose de garder de ce texte, c'est ce schéma du compatibilisme, un peu notre boussole pour savoir comment justement nous diriger une fois qu'on a quitté la plage et où on se dit, bah, on va où? On fait quoi? On s'interroge si on devrait mettre la barre à droite, la barre à gauche. En fait, je crois que notre rôle, c'est de mettre le voilier à l'eau, de décider une destination, Chypre, pour Saul et Barnabas, et d'avoir cette confiance que Dieu souffle dans les voiles. Et que si on ne va pas dans le bon sens, il n'y a pas de souci, puisque notre mission, c'est de rejoindre Dieu là où il agit déjà. Actuellement, vous le savez, nous réfléchissons en tant qu'Église à prendre une de ces nouvelles directions sur l'océan. Un voyage missionnaire court terme. Une dizaine de jours où, en tant qu'Église, on voudrait s'interroger là où Dieu voudrait nous envoyer et qu'est-ce que nous pourrions faire. Pour l'instant, désolé, on n'a pas mis le cap sur Chypre, mais sur la Roumanie. Ceux qui se sont intéressés de près au projet ont l'impression que le Saint-Esprit nous conduit dans cette direction. On en est qu'aux prémices, hein. Mais mon désir, c'est que ce soit vraiment un projet que nous partagions tous. On ne va pas tous partir, probablement pas. Enfin, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, hein, mais voilà, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est possible en fonction d'agenda, de circonstances, de contexte. Mais par contre, je pense qu'on est tous appelés à se saisir, que nous soyons du côté de ceux qui envoient ou de ceux qui partent. Et la petite étape que vous pouvez faire ce matin, c'est tout simplement de biffer dans votre agenda la période qui nous semble être celle où ce voyage aura lieu, aux vacances de la Toussaint 2023. Parce que bien sûr, pour partir dans ce genre d'entreprise, faut peut-être anticiper des congés, des choses où voilà, on a un nombre limité, il va falloir organiser son agenda. Donc voilà, je vous le dis, une dizaine de jours, a priori, à l'automne 2023, c'est là où nous en sommes. Et pour tout vous dire, ce sujet m'insécurise. Oui, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment on fait pour organiser un voyage. On aurait besoin d'un Richard, là, qui reste quelques mois avec nous pour nous aiguiller. Mais cette insécurité est aussi mon sujet de joie. En nous lançant dans cette initiative, nous allons voir Dieu agir. Nous allons voir où il agit. Nous allons apprendre à le rejoindre là où il agit déjà. Et c'est avec cette dernière idée que j'aimerais vous laisser ce matin. Elle s'applique, je pense, plus généralement à chacune de nos vies, même quand on n'est pas en train de réfléchir si on va aller en Roumanie. Seul le voilier qui est sur l'océan s'attend à Dieu. L'océan est parfois agréable, et là on peut être reconnaissant pour le fait que Dieu souffle et nous conduit de façon harmonieuse. Mais il arrive bien sûr que l'océan s'agite. La situation devient difficile, elle nous confronte à nos limites. Généralement, on aime moins naviguer par gros temps. Pourtant, ce que nous méditons ce matin, me semble-t-il, est là aussi une source d'encouragement dans ces situations. Cette situation, ce gros temps, ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés vont nous permettre de voir Dieu agir. Quand on est limité par nos ressources, naturellement, si on a placé sa confiance en Jésus, on a une plus grande attente que Dieu agisse. Alors, il ne va pas forcément faire ce qu'on aimerait qu'il fasse, ce qu'on a prévu qu'il fasse, mais nous allons apprendre à le rejoindre dans ce qu'il veut faire pour nous. Transformer nos inquiétudes en une joie pleine de curiosité. Qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir inventer dans cette situation? C'est une manière, me semble-t-il, hein, de ne plus nous mettre au centre, mais de laisser Dieu agir, de se centrer sur lui. Alors pour finir et faire suite à cette petite exhortation finale, je vous invite à ce qu'on puisse prendre un chant, je ne crois pas que ce soit le dernier, qui justement nous invite à nous ancrer en Dieu mais à le laisser aussi souffler dans les voiles pour nous diriger. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce chant en réponse à notre message.